Very Good Bowie Trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very Good Bowie Trip. Les 9 vies de David Bowie.
Deuxième épisode de notre série d'été sur l'homme qui demeure la figure la plus singulière de l'histoire du rock au sens très, alors vraiment très large. Personnage de fiction autant qu'auteur, compositeur, interprète de chansons, comment parler de lui au singulier? Il a toujours été plusieurs et c'est ce sentiment d'être éternellement un autre qu'évoque la chanson que vous vous apprêtez à entendre. Ignoré à sa sortie, mais élu par la postérité qui l'a rendu immortel. Mais si, évidemment, vous avez déjà entendu ça quelque part.
We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there. He said I was his friend. Which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone. A long, long time ago. I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Aussi surprenant que ça puisse paraître, cette chanson, aujourd'hui une des plus connues de David Bowie, n'a éveillé aucun écho particulier à sa sortie. Pas plus que l'album auquel elle a donné son titre, The Man Who Sold the World, publié il y a plus de 50 ans déjà. Alors beaucoup parmi vous connaissent peut-être The Man Who Sold the World grâce à la version que Kurt Cobain en a donnée dans le cadre du fameux concert Unplugged, un récital sans instrument électrifié capté en 1993, un des enregistrements les plus populaire du groupe Nirvana qui a largement contribué à populariser justement cette chanson de Bowie. Alors, on y entend des paroles surprenantes que Cobain articule très clairement, contrairement à ses habitudes. « Je lui ai parlé les yeux dans les yeux et je lui ai dit « mais je croyais que tu étais mort depuis longtemps ». Aussitôt après, jaillit cette exclamation « oh non, pas moi, je n'ai jamais perdu le contrôle, tu es face à face avec l'homme qui a vendu le monde ». Alors dans son interprétation, Kurt Cobain donne une résonance douloureuse, à fleur de peau à ses paroles, mais dans la version initiale de Bowie, c'est autre chose. L'effet est plus froid, plus théâtral, on a l'impression que deux voix distinctes, c'est-à-dire deux personnages, même s'il s'agit du même chanteur, se répondent à distance. Alors je ne vais pas entrer dans des considérations techniques, hein, c'est un peu un terrain miné pour moi, mais enfin dans l'enregistrement historique de Bowie, la voix, dans ces deux expressions jumelles, est légèrement déformée par un effet qu'on désigne sous le terme de « phasing ». Dans « The Man Who Sold the World », un très jeune homme s'adresse à lui-même et ne se reconnaît pas. Alors Bowie ne cherche pas à interpréter sa chanson à la première personne, à l'incarner, comme l'aurait fait, je sais pas, un Cat Stevens, un des grands noms de l'époque, pas du tout. En fait, il met en scène sa propre voix. On ne sait pas au juste à qui il s'adresse, c'est le soliloque d'un comédien révélant la faille s'ouvrant au fond de lui-même. Qui suis-je, semble-t-il se demander, en nous prenant à témoin. À la fois tout le monde et personne, alors peut-être rien. Dans une des premières longues interviews qu'il a données en 1971 à un hebdomadaire musical anglais, David Bowie a l'air d'être en proie à un étrange pressentiment. Il affirme maîtriser parfaitement le cadre théâtral de sa musique, un cadre très élaboré, très solide, invincible, pour reprendre ses propres termes, mais à l'intérieur de ce cadre se trouve, je cite les propres paroles de Bowie, un homme invisible. Et chez Bowie, la mise en scène est tout. Je cite Bowie dans la même interview de 71. « Je crois que la musique doit se mettre sur son 31, elle doit faire la pute, elle doit être une parodie d'elle-même, elle doit se montrer masquée et mon rôle est de porter ce masque. » C'est cet absolu vertige que Bowie n'a cessé d'exprimer dans sa musique à travers les multiples masques qu'il a pu porter. Alors rien d'étonnant à ce que Bowie se soit rendu célèbre en jouant le rôle d'une rockstar parodique et désaxée du nom de Ziggy Stardust. Une caricature dans laquelle beaucoup ont vu le miroir de leur propre vertige, leur fantasme et leur hantise du vide. Le miroir de leur propre folie, en somme. Une folie que Bowie ne connaissait que trop bien et qui, dans sa jeune existence, l'encerclait de toutes parts. J'aborderai d'ailleurs cette question dans l'épisode suivant de notre série. Mais Ziggy, ça n'allait pas être tout de suite et Bowie allait encore passer quelques temps dans les limbes.
The children of the summer's end gathered in the dampened grass. We played our songs and felt the London sky resting on our hands. It was Godland. It was ragged and naive. It was heaven. Touch, we touched the very soul of holding each and every life. We claimed the very source of joy ran through. It didn't, but it seemed that way. I kissed a lot of people that day. Oh, to capture just one drop of all the ecstasy that swept that afternoon. To paint that love upon a white balloon. And fly it from the toppest top of all the tops that man has pushed beyond his brain. Satori must be something just the same. We scanned the skies with rainbow eyes and saw machines of every shape and size. We
talked with tall Venusians passing through. And Peter tried to climb aboard, but the captain shook his head, and away they soared, climbing through the ivory vibrant cloud. Someone passed and blessed among the crowd, and we walked back to the road unchained.
The Sun Machine is coming down and we're gonna have a party. Hein. La machine du soleil redescend et on va faire la fête. Des paroles et un air qu'on croirait sorti de Hair, hein, la grande comédie musicale de la période hippie. On y sent l'ambiance aussi de ce qu'on appelait les festivals pop, hein, dans le sillage de la fête de Woodstock et de son fameux slogan, hein, 3 jours de paix et de musique. Une chanson signée David Bowie, Memory of a Free Festival, souvenir d'un festival libre, hein, ou bien gratuit. Une chanson qui est sortie en 45 tours simples au début de l'année 1970. Peu de temps après son tube Space Oddity, mais elle n'a rencontré aucun succès. David Bowie, hippie. Voilà qui a de quoi surprendre, c'est pourtant bien lui qui a écrit et chanté ces paroles. Nous avons balayé le ciel de nos yeux arc-en-ciel et avons vu des machines de toutes formes et dimensions. Nous avons parlé avec des Vénusiens qui volaient à travers, etc., etc. Il avait certainement pris des trucs avant d'écrire tout ça. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Memory of a Free Festival relate une expérience vécue et même orchestrée par David Bowie. Dans la banlieue tranquille de Beckenham, où il avait grandi, c'est à une vingtaine de kilomètres du cœur de Londres, hein, au sud, David Bowie avait organisé un petit festival hippie. Oh, alors une version extrêmement modeste et provinciale du festival de Woodstock qui, en cet après-midi du 15 août 1969, battait son plein de l'autre côté de l'Atlantique. Le Growth Summer Festival, c'était son nom, le festival d'été de la fertilité, on pourrait dire, se tenait dans un jardin public dans les étroites dimensions d'une kermesse paroissiale. Un pauvre tract renéoté annonçait la présence de chanteurs et chanteuses folk totalement underground, dont Bowie, qui était à la fois organisateur, artiste, régisseur et manutentionnaire. On y trouverait aussi des stands, c'est ce qu'annonçait le tract, des stands de fripes, bijoux, céramiques et thé exotiques, sans oublier un théâtre de marionnettes, un stand de tarot et même, ça va avec, des astrologues. Le tout sous l'égide du Beckenham Arts Lab, une sorte d'atelier artistique underground qu'un Bowie totalement inconnu avait créé dans l'arrière-salle d'un pub miteux de Beckenham. Alors, Bowie a été un dandy remarqué parmi les mods de Londres, avec ses coupes de cheveux étudiées et vestons et chemises choisies à la manière de Ray Davies des Kinks. Hein. Il a ensuite arboré des chemises aux motifs psychédéliques, comme un de ses modèles, hein, Syd Barrett, le fondateur de Pink Floyd. Et en 69, eh bien, Bowie porte d'amples chemises à fleurs et est coiffé d'un casque de bouclettes blondes, peroxydées et ondulées, façon caniche, sur le modèle de son ami Mark Bolan, un jeune musicien et dandy londonien aussi ambitieux que lui. Alors, Bowie évolue très très vite. En 69, l'underground hippie à Londres réunit les jeunes artistes les plus visionnaires dans tous les domaines, musique, cinéma, graphisme, photo, journalisme, etc. Pourtant, Bowie n'aime pas tellement les hippies. Comme il s'en ouvre en septembre 1969 à l'hebdomadaire Disc and Music Echo, hein, je le cite, « Les hippies sont surtout des gosses de classe moyenne en révolte contre leurs parents. » Mais en réalité, les plus démunis dans le monde, les non-privilégiés, ce sont les classes inférieures et les noirs. En fait, c'est surtout l'attitude des musiciens hippies qui déplaît à Bowie. Ceux-ci se prétendent, entre guillemets, authentiques. Purs et durs, ils n'aiment pas les costumes, le music hall et le monde du showbiz. Hein, tout ça, ça les fait grimacer. À leurs yeux, vouloir divertir les gens, à faire, comme on dit, de l'entertainment, eh bien, c'est une forme de trahison et de compromission. Tandis que lui, Bowie, au fond, bah, c'est tout ce qu'il aime. Et sur ce plan, son camarade Mark Bolan est en avance sur lui. Bolan a été sacré roi de l'underground londonien. Accompagné d'un comparse frappant sur une paire de tablas, Bolan se produit assis en tailleur, chantant ses chansons d'une voix nasillarde et lancinante, au milieu de chevelus engoncés dans des capes. Mais, Bolan va très rapidement trahir ce petit milieu. Un beau jour, en effet, il va cesser de jouer assis, il se redresse, il troque sa guitare folk contre une électrique, il enfile des vestes en lamé et il se maquille avec des paillettes. Et son duo, du nom de Tyrannosaurus Rex, se transforme en un groupe de rock'n'roll du nom de T-Rex. Alors, dès le début de l'année 71, c'est une réaction en chaîne. T-Rex déclenche l'hystérie auprès d'un public de prépubères, suscitant ce qu'on appelle une T-Rex-tasy, un peu sur le modèle de la Beatlemania. Et pendant ce temps-là, eh bien, Bowie végète. Il est vert de jalousie, mais il attend son heure. D'ailleurs, il sera très vite puisé l'essentiel de son œuvre à venir dans cette métamorphose de Mark Bolan, et même il va l'aspirer comme un vampire pour alimenter son autocréation à venir, le personnage fameux de Ziggy Stardust. Alors, il faut rappeler que Bolan et Bowie, comme je vous l'ai dit, ont une vieille histoire ensemble, un long compagnonnage. Les deux se sont rencontrés à 17 ans, en 1965, si on est la même année, dans des circonstances alors pas très glamour, ils repeignaient les murs du bureau d'un cadre travaillant pour une maison de disques. Et c'est Bowie qui avait abordé Bolan en lui disant « Alors toi, t'es un mod ?»« Ouais !» a répondu Bolan. « Le roi des mods, c'est moi. Et je vais te dire un truc, tes chaussures, elles sont pourries. »« Ah ouais ? Eh ben toi, t'es un nain. » Moi, rétorque Bolan, je vais être chanteur. Et je vais être tellement énorme, tu peux même pas imaginer. » Eh ben tiens, moi, un jour, conclut Bowie, j'écrirai peut-être une comédie musicale pour toi, parce que le plus grand auteur de chansons, ce sera moi. Et au fond, ils avaient tous les deux raison. Tous les deux ont vu très juste et très loin. Mark Bolan deviendra la superstar naïve et éphémère d'un rock'n'roll renaissant au premier degré, et Bowie deviendra plus durablement un comédien, auteur, metteur en scène de génie, fascinant durablement le public, à la façon des stars de cinéma d'autrefois, Rudolph Valentino ou Greta Garbo. Bah oui. Pour être plus exact, Bowie se mettra lui-même en scène dans l'image d'une star, au point parfois, souvent même, de tomber dans le vide creusé par sa propre image, et son voyage musical aura la portée d'un vaisseau intersidéral.
When all the world was very young, mountain magic heavy hung, the supermen would walk in file, guardians of a loveless isle, and gloomy browed with super fear, their endless tragic lives could heave no sigh, in solemn perverse serenity, wondrous beings chained to life. In unithought, hours weird by mystics taught, no pain, no joy, no power too great, colossal strength to grasp a fate, where sad-eyed mermen tossed in slumbers, nightmare dreams no mortal mind could hold, man would tear his brother's flesh, a chance to die, to turn to mold.
Very Good Bowie Trip sur France Inter.
Please trip them gently, they don't like to fall.
Oh, by jingo.
There's no room for anger, we're all very small.
Oh, by jingo.
We're painting our faces and dressing in thoughts from the skies, from paradise. But they think that we're holding a secretive ball. Won't someone invite them? They're just taller children. Let's all, after all, man is an obstacle, sad as the clown. Some people are marching together, and some on their own, quite alone. Others are running, the smaller ones crawl, but some sit in silence. They're just older children. That's all. After all, I'm sorry I called, but the thought just occurred, we're nobody's children.
Jusqu'à ta renaissance et fais ce que tu veux, oublie tout ce que j'ai dit et nom d'un chien, ne sois pas fâché, après tout. Les dernières paroles d'une chanson énigmatique signée David Bowie, After All, celle qui conclut son troisième album, The Man Who Sold the World, sur lequel il a travaillé au cours de l'année 1970. Un enregistrement qui transmet une énergie nouvelle, même si pour l'heure, hélas, l'album échouera à imposer le nom de David Bowie au premier plan. Le style, les chansons, les orchestrations recherchées par Bowie et ses collaborateurs s'inscrivent dans un courant qu'on désigne alors sous le nom de musique progressive. Un adjectif qu'on pourrait traduire par futuriste. Alors il faut le rappeler, dans ces années 1969-1970, la presse spécialisée et pas mal d'amateurs s'enthousiasment pour l'entrée de la musique dans une nouvelle période, accueillant à sa tête des groupes comme Pink Floyd ou King Crimson. C'est un courant qui passionne Bowie, avide évidemment de tout ce qui est nouveau. Alors ce style de musique peut aujourd'hui nous faire penser à ces fascinants animaux préhistoriques qui étaient à la fois mammifères, reptiles, oiseaux et poissons. En tout cas, pour la première fois chez Bowie, des chansons combinent tout simultanément. Folk, blues, hard rock naissant, son électronique encore rudimentaire, réminiscence de musicals et même de cabaret berlinois à la Courtweil, hein, comme on l'a entendu dans After All. Une chanson qui, entre parenthèses, s'inscrit tout à fait dans un courant très anglais, hein, ce qu'on a appelé le folk baroque, aux orchestrations parfois symphoniques, un courant représenté par des talents comme Roy Harper ou Michael Chapman. Environ 2 ans auparavant, à l'âge de 20 ans, David Bowie a rencontré à Londres un garçon américain à peine plus âgé que lui, du nom de Tony Visconti. C'est un New-Yorkais, un musicien new-yorkais récemment débarqué à Londres, et un musicien de rock très expérimenté pour ses 23 ans. Il est d'ailleurs également passé par le conservatoire. Alors l'employeur américain de Visconti l'a envoyé à Londres pour repérer de nouveaux talents, des artistes en marge et prometteurs, londoniens quoi. Alors Visconti a déjà travaillé avec l'ami de Bowie, Mark Bolan, et le premier avatar de T-Rex. Il a également très vite capté chez Bowie un talent exceptionnel d'auteur de chansons et d'interprète encore trop dispersé à son goût. En tout cas, quand ils se rencontrent, Bowie et Visconti ont l'un pour l'autre une sorte de coup de foudre. Ils partagent la même curiosité tous azimuts. Ils adorent l'un et l'autre, par exemple, les créations mi-savantes, mi-loufoques du Californien Frank Zappa, avec les Mothers of Invention. Et puis, ils sont également passionnés par le cinéma européen nouveau, notamment fantastique. Visconti va vite capter chez Bowie une fibre visionnaire. Et plus que l'encourager, eh bien Visconti va pour ainsi dire accoucher Bowie. Il va lui permettre de développer sa vision unique de la musique, notamment dans sa mise en scène théâtrale. Visconti, en effet, met carrément la main à la pâte et propose à Bowie de monter avec lui un groupe dont il sera le bassiste. Il va faire venir un musicien, un guitariste exceptionnel, Mick Ronson, un musicien au bagage classique, formé au violoncelle et qui a préféré jouer de la guitare électrique dans un groupe de rock. Seulement ça paye mal et récemment, eh bien, Ronson a décidé de tout lâcher pour prendre un emploi stable de garde champêtre, et oui, dans sa ville de Hull, dans le nord-est de l'Angleterre. Un pote l'a néanmoins convaincu de tout lâcher pour venir auditionner à Londres. Alors quand Bowie entend Ronson arriver, prendre sa guitare, la brancher, voilà, et jouer, bah, sa mâchoire se décroche, il n'en revient pas, ils ont mis la main sur un virtuose. Et Bowie pense que c'est à la fois Jimi Hendrix, Eric Clapton et Jeff Beck. Bah oui, pas moins. C'est ainsi que naît Hype. Hype, le premier groupe où David Bowie, pour ainsi dire, va se révéler David Bowie. Hype, un nom évidemment très grinçant. Difficile à traduire, ça veut dire à la fois tapage, propagande, intox ou arnaque. Alors un groupe qui s'appelle Arnaque et le revendique avec un sourire en coin, bien voilà qui raconte déjà en grande partie Bowie. Bowie qui se présente sur scène dans une espèce de cape courte, aux longues manches agrafées, un bleu turquoise avec lesquelles ses manches, il fait des effets comme s'il avait des ailes. Alors il porte un grand slip par-dessus des cols en blanc, et alors certains, quand ils le découvrent, peuvent avoir envie de rigoler et ne s'en priveront pas. Cela dit, si on rit, c'est avec Bowie et pas contre lui. Alors les quatre musiciens sont d'ailleurs tous déguisés. Visconti porte un t-shirt avec le S de Superman et une aile rouge ridicule dans le dos. Quant à Ronson, il est grimé en gangster des années 1930. Alors seulement quand Bowie chante, il le fait avec un lyrisme vieille école et une fougue passionnée dans un style qui n'a pas grand-chose à voir avec le blues et le rock dont il est issu et encore moins avec le folk hippie dans lequel il s'est inscrit. Alors comment définir ça? C'est un mélange de rock et de musical, une sorte de cabaret rock d'un genre nouveau. En somme, ce qu'on appellera dans les années à venir le glam rock. Un style que Bowie et ses musiciens, au début de l'année 1970, c'est tôt, sont en train d'inventer. Mais Bowie est déjà un personnage complètement à part. Chez lui, la différence entre la scène et la vie de tous les jours n'existe pas vraiment. La pochette de l'album The Man Who Sold the World le montre étendu sur une sorte de chaise longue, les cheveux très longs, vêtu d'une robe longue, au tissu imprimé et chaussé de bottes de femme. Mais il faut savoir qu'il se baladait aussi comme ça dans les rues de son quartier, en compagnie de sa femme américaine, Angie, qui travaillait pour une compagnie de disques londonienne. Et quand Bowie fait son premier voyage aux États-Unis, au début de l'année 71, il a mis au moins une de ses robes dans sa valise. Et un jour, à Houston, au Texas, il se balade avec. Un gars armé le voit dans la rue et carrément menace de lui tirer dessus. C'est un voyage qui n'avait rien de touristique, vous pouvez l'imaginer. Sa maison d'édition musicale avait envoyé Bowie là-bas tout seul pour présenter ses chansons seul à la guitare devant un public de professionnels et aussi d'étudiants. Alors les professionnels à Londres croient beaucoup plus dans ces années-là en Bowie auteur de chansons que en Bowie performeur. Mais ce voyage va absolument tout changer pour Bowie. Son monde va entrer dans une nouvelle dimension. Il va passer, pour ainsi dire, du noir et blanc à la couleur. À New York, par exemple, il découvre la fameuse Factory de Andy Warhol, qui aimante, comme on sait, de flamboyants personnages qu'il appelle ses superstars, et que donc Warhol filme une espèce de happening permanent, notamment Ultra Violet, une française, ou encore la transsexuelle Candy Darling. Et dans une célèbre boîte de Manhattan, Max's Kansas City, Bowie tombe sur Iggy Pop et les Stooges qui le fascinent. Il est captivé jusqu'à l'obsession par Iggy, au moment d'ailleurs où Iggy est au fond du trou dans un état catastrophique, mais ça n'empêche pas Bowie et son manager Tony DeFries de lui tendre la main et de lui offrir un nouveau départ à Londres. On en reparlera évidemment. Tout va changer pour David Bowie et sa métamorphose en super-héros décadent est proche.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man. Never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up on out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination. Our changes are taking
Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you bring faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things.
Oh, You Pretty Things, une des chansons les plus mémorables figurant dans le quatrième album signé par David Bowie, Hunky Dory, qui est paru à la toute fin de l'année 1971. Un album où Bowie se révèle en pleine transition et même en pleine métamorphose. De la ballade très anglaise à accompagner au piano qu'on vient d'entendre, au rock'n'roll new-yorkais de Queen Beach, qu'on entendra tout à l'heure, il y a un monde, ou plutôt un voyage d'un monde à un autre. L'espèce de comédie musicale rock que Bowie a en tête, grandeur et décadence de Ziggy Stardust et des araignées de Mars, on sent mieux peut-être la nature théâtrale du projet, si j'en traduis le titre, est déjà en gestation. Le portrait que Bowie a choisi pour orner la pochette de Hunky Dory, c'est une expression originaire des États-Unis qui signifie à peu près « au poil » ou « impeccable », le montre le regard vide, dirigé vers le ciel, posant comme une de ces superstars, entre guillemets, élues par Andy Warhol, en fait des excentriques complètement perdus, rêvant d'une gloire qu'ils n'atteindront jamais. Ce qui symbolise bien tout le paradoxe de Bowie s'affirmer en incarnant des personnages qui souffrent d'être nés dans la peau d'un autre avec le mauvais sexe ou sur la mauvaise planète. Des personnages chez qui, au fond, rien ne tourne rond. Dans Oh You Pretty Things, comme dans Superman, au pluriel, qu'on a entendu tout à l'heure d'une version rare, le thème est constant. Il faut fuir le vide, le néant qu'on sent en soi. Il faut atteindre un degré supérieur de l'existence, celui du surhomme nietzschéen qui se surpasse et se réinvente. Ou, plus modestement, il faut vivre le rêve qu'on a au fond de soi en le payant parfois du prix de la folie. Hunky Dory présente des chansons plus concises que celles de The Man Who Sold the World. Bowie travaille désormais sous la supervision d'un nouveau manager qui s'appelle Tony DeFries. La femme de Bowie, Angie, qui vient de lui donner un enfant, Duncan, dit Zoe, a résumé le programme pour son mari. Même si tu ne l'es pas encore, tu dois être une star, tu agis, tu te conduis et tu penses comme une star et moi, je vais t'aider à en devenir une. Et Tony DeFries a toutes les qualités pour être le parfait manager. Juriste de formation, il maîtrise les aspects techniques et contractuels et il a surtout la bonne stratégie pour mettre en œuvre la vision de Angie Bowie qui partage évidemment. Pour DeFries, David n'est pas un excentrique marginal. Il a de quoi s'imposer comme la star la plus importante de ce début de décennie 70. En effet, les Beatles n'existent plus, Bob Dylan garde le silence et les Stones n'ont plus le même prestige. La star absolue, eh bien, ce sera Bowie. Et DeFries va utiliser une méthode qui fera ses preuves par la suite, organiser la rareté des apparitions de Bowie et même des images de Bowie. Il aura d'ailleurs ses photographes attitrés, hein, Mick Rock et Lee Blackchilders, et les interviews de Bowie seront très difficiles à obtenir. Une stratégie toujours efficace, au fond, organiser la pénurie pour mieux affûter le désir. Alors le seul qui n'approuve pas du tout le choix de Tony DeFries, eh bien c'est Tony Visconti qui soupçonne cet individu, c'est un euphémisme, de ne pas être l'honnêteté personnifiée. En tout cas, Ken Scott, un ingénieur du son qui a travaillé avec les Beatles, est sollicité pour réaliser l'album Hunky Dory. Alors sceptique au début, Ken Scott est subjugué par le talent de chanteur de Bowie qui, alors c'est une chose absolument rarissime, donne dès la première prise une interprétation irréprochable et exceptionnelle qu'il est le plus souvent inutile de reprendre ou de retoucher. Pour Ken Scott, Bowie est le meilleur chanteur avec lequel il a jamais travaillé. Bowie a composé ses nouvelles chansons au piano et dans le studio londonien où il enregistre, c'est sur un vieux Bechstein de la fin du 19e siècle, le clavier sur lequel Paul McCartney a interprété Hey Jude, que le pianiste Rick Wakeman va accompagner les chansons de David Bowie. Alors, les mélodies sont subtiles, elles sont sinueuses, on sent à quel point le style des ballades de John Lennon et de Ray Davies des Kings, d'ailleurs leur façon de chanter aussi, ont influencé Bowie, mais Bowie ajoute à ça une ampleur, une certaine façon de déclamer, bref, une théâtralité qui n'appartiennent qu'à lui. Une des chansons les plus touchantes de Hunky Dory s'appelle Cooks, un mot qui veut dire barge ou dingo, et par lequel il semble se désigner lui-même, lui et sa femme Angie, Angie qui vient de donner naissance à un petit garçon. La chanson s'adresse au petit Zoe et on dirait un curieux mélange très heureux entre Neil Young et les Kings. Les Kings, les tordus, c'est pas loin de Cooks au fond.
Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you, 'cause if you stay with us you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool.
Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown.
Will you stay in the lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in the lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance.
Very Good Bowie Trip, Mishka Assayas, sur France Inter.
Voilà qui annonçait clairement les choses à venir. Queen Bitch, qu'on vient d'entendre, tranche nettement avec les ballades au piano qui dominent le quatrième album de David Bowie, Hunky Dory, sorti fin 71. Lancé à la guitare folk, c'est une chanson qui tourne autour d'un riff de guitare élémentaire, un riff qui renvoie au tout début du rock'n'roll dans le style de Eddie Cochran ou de Buddy Holly. Aujourd'hui, 50 ans après, évidemment, c'est facile de dire « Ah oui, c'est évident, Bowie copie de A à Z le style de Lou Reed, sa façon de chanter, ses intonations et puis bien sûr ses thèmes. » Mais enfin, début 72, qui connaissait Lou Reed à Londres ? Pas grand monde. Le Velvet Underground est un groupe qui n'existe pratiquement plus, enfin à peine, puisque Lou Reed n'en fait plus partie depuis plus d'un an et qu'il a même un temps envisagé d'abandonner la musique. Il se trouve que le lien de David Bowie avec la musique du Velvet Underground est très étroit et même historique. À la fin de l'année 1966, son tout premier manager, Ken Pitt, a rendu visite à Andy Warhol à New York, à la fameuse Factory. Warhol lui a alors offert un tout premier pressage d'un album, pas encore commercialisé, attribué à un groupe de musiciens bizarres, dont Warhol avait organisé des exhibitions, hein, comme au cirque, plutôt que des concerts. Le fameux premier album du Velvet Underground avec Nico, celui dit à la banane, que pratiquement personne n'a acheté à sa sortie. De retour à Londres, Ken Pitt donc, a offert son exemplaire à Bowie, qui en est tombé absolument rade dingue. Bowie a pu se vanter à bon droit d'avoir été le tout premier à Londres à connaître le Velvet Underground. Il est devenu absolument obsédé par ce son et ses chansons extrêmement dérangeantes. Dès 1967, alors peut-être je sais pas début 68, en tout cas avec un de ses groupes éphémères, Bowie se met à reprendre I'm Waiting for the Man. Et quand au début de l'année 71, comme je vous l'ai raconté, il va aux États-Unis pour la première fois et qu'il débarque à New York, il a évidemment, en fan qu'il est, qu'une idée en tête, assister à un concert du Velvet Underground. Il a de la chance, le groupe joue en ville. Alors il y va, et alors il est là au premier rang, il écoute, il regarde, il est absolument fasciné. Et tout tremblant, à la fin du concert, en admirateur transi, il se poste devant la loge du groupe. On lui demande ce qu'il veut, il dit « bah c'est simple, parler avec Lou Reed ». Alors avec un sourire en coin, il y a un gars qui lui dit « bah pas de problème, on va le prévenir ». Et Bowie se trouve enfin face à son héros, à l'objet de ses fantasmes. Il le bombarde de questions. Comment est-ce qu'il a trouvé ce son de guitare si particulier, distordu et saturé? Quel est le sens caché de certaines paroles des chansons? Alors l'autre répond longuement et complaisamment. Et Bowie, évidemment, est aux anges. Il raconte ensuite à des proches que ça y est, il a rencontré Lou Reed et que celui-ci lui a tout raconté. L'un d'eux le regarde totalement ahuri et puis éclate de rire. Il lui dit « mais c'est pas possible ». Lou Reed, il fait plus partie du Velvet Underground depuis longtemps. Le gars à qui t'as parlé, en fait, c'est Doug Yule, qui s'est évidemment payé la tête du dandy londonien ébloui. Il faut se rappeler qu'en ces temps reculés, les images ne circulaient pas autant qu'aujourd'hui. On connaissait pas très bien la tête des musiciens et évidemment l'imposture était plus facile. Quelques mois plus tard, fin 71, Bowie rencontrera Lou Reed pour de bon cette fois, en compagnie de son manager Tony DeFreeze. Et tous deux élaboreront avec succès un plan pour sauver et relancer avec éclat la carrière de Lou Reed. Idem pour Iggy Pop, au sujet duquel on peut même parler de sauvetage. J'y reviendrai bien sûr dans le prochain épisode, c'est promis, ce sont deux rencontres évidemment essentielles pour Bowie. En tout cas, dans Queen Bitch, Bowie met en scène de façon... cinématographique, hein, plus encore que théâtral, un trio. Alors il y a le narrateur de la chanson qui regarde par la fenêtre du 11e étage dans un hôtel. En bas, il y a un prostitué travesti, Sister Flo, qui est en train d'embarquer un client. Et lui, là-haut, est jaloux, mais je suis mieux qu'elle, il aurait dû partir avec moi, et il, enfin elle, est frustré. Et alors Lou Reed, franchement, n'aurait pas imaginé mieux. Cela dit, le sommet de l'album Hunky Dory, c'est la ballade épique Life on Mars, dont l'origine est d'ailleurs tout à fait inattendue. Bowie avait entendu à Londres la célèbre chanson de Jacques Revaux et Claude François, comme d'habitude. Il avait souhaité l'adapter en anglais, mais il s'était fait doubler par le crooner canadien Paul Anka, qui en avait fait le célèbre My Way, hein, immortalisé par Sinatra. Alors Bowie a imaginé sa propre version de Comme d'habitude, et c'est Life on Mars, c'est une sorte de cauchemar psychédélique, l'évocation d'une jeune fille qui rêve d'échapper à l'ennui de sa banlieue.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. And the best-selling show,
is there life on Mars?
Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors piping in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Life on Mars, le clou de l'album Hunky Dory. Voilà qui conclut le deuxième épisode des aventures surprenantes de David Bowie. Et oui, c'est tout pour cette fois.
Very Good Bowie Trip, une série de Mishka Assayas réalisée par Frédéric Milano et Stéphane Ronxin.
Dans le prochain épisode, on assistera à la naissance et à la mort du rocker décadent et suicidaire Ziggy Stardust.